doivent agir maintenant pour sauver les objectifs de développement durable.
Voilà, merci beaucoup John. À présent, nos invités dans nos studios de New York, nous avons Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT Diplomatique. Toujours dans nos studios de New York, Jean-Claude Zamba, analyste politique, ingénieur agronome de formation. Et toujours dans la capitale économique américaine, hein, la grande pomme, Hawa Ba, qui est directrice pays d'OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, qui nous rejoint via Skype. Mais avant de les retrouver, tâtons un peu le pouls de cette 78e Assemblée Générale des Nations Unies avec notre envoyée spéciale Alexandrine Rollignon, qui se trouve sur place. Alexandrine, alors, dites-nous un peu ce qui retient votre attention dans les débats, dans les thèmes qui sont abordés. Vous êtes sur place depuis lundi.
D'entrée de jeu, Abdou, je parlerai de la demande de certains dirigeants africains qui veulent que l'Afrique soit pleinement représentée dans les organes qui prennent des décisions pour son avenir. Paul Kagame, le dirigeant rwandais, en a parlé hier. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, est également revenu sur la même demande. Il y a un passage de son discours qui m'a, moi, marqué. Si vous permettez, je le partage avec vous. Le moment est venu de corriger l'injustice de longue date subie par le continent africain concernant la structure et la composition actuelle du Conseil. Il n'est en effet plus possible de continuer à prêcher la démocratie, l'égalité et la bonne gouvernance dans le monde si l'organisation est toujours régie par une structure injuste et inéquitable. En bref, je dirais que les dirigeants du continent veulent des réformes. Ils veulent des réformes sur tous les plans, mais ils veulent surtout se faire entendre. Je parlerai également du coup de gueule, ce que je qualifie de coup de gueule, du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui pense que les efforts sont concentrés sur d'autres problèmes, notamment la guerre, plutôt que d'investir assez dans le développement du continent. Donc il a encore une fois interpellé les dirigeants mondiaux à faire plus d'efforts pour le développement du continent, surtout pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, outre cela, il faut signaler également que les dirigeants de continent, je mets vraiment l'accent sur les dirigeants de continent et leur discours, qu'ils sont soucieux des urgences sur le continent, des urgences dans leurs régions respectives et l'impact climatique surtout que les pays africains subissent actuellement, le séisme au Maroc, les inondations en Libye qui ont fait des milliers de morts. Dans presque toutes les interventions des dirigeants africains que j'ai suivies jusqu'aujourd'hui, presque tous sont revenus sur cette question, sur l'aide qu'il faut porter aux survivants de ce séisme et également des inondations en Libye.
D'accord. Alors Alexandrine, avant de vous laisser partir, les Nations Unies, cette Assemblée Générale, ce n'est pas seulement au siège des Nations Unies. On a vu que les ressortissants de plusieurs pays en ont profité un peu pour mettre en exergue la situation dans leur pays respectif, n'est-ce pas?
En effet, plusieurs manifestations ont eu lieu en marge de ces travaux, de cette session des Nations Unies. Presque tous les jours, il y a plein de monde juste à l'entrée avec des drapeaux, des pancartes pour parler aux dirigeants du monde, pour se faire entendre, pour porter leur voix. Alors, ce sont les activistes de climat qui ont ouvert le bal depuis samedi ou dimanche, je pense, pour parler aux dirigeants mondiaux de mettre plus d'efforts sur le changement climatique et surtout pour faire face aux conséquences de ce changement climatique. Il y a également plusieurs membres de la diaspora africaine qui sont présents ici pour parler à leurs dirigeants. Les Sénégalais ont manifesté 2 jours durant sous la pluie pour parler à Macky Sall, pour demander la libération de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Il y a également la Mauritanie, les Mauritaniens qui ont manifesté contre l'impunité, les Nigériens qui veulent revenir sur la présidentielle passée et les résultats de ce scrutin, les Sierra Leonais également qui veulent le recompte des voix de la présidentielle passée. Donc il y a plusieurs membres de la diaspora africaine qui sont ici tous les jours pour se faire entendre par leurs dirigeants et pour aussi leur dire que oui, nous sommes là, on suit ce que vous faites, on veut plus d'action et on veut également que vous preniez des décisions pour faire face aux différentes crises qui se passent dans nos pays d'origine.
Voilà, merci beaucoup Alexandrine Oleignon qui se trouve au siège des Nations Unies à New York. Alors, on va rapidement, on va directement au débat maintenant. Alors, je démarre avec vous, Hawa. L'ONU a beau vouloir mettre l'accent sur les questions de développement et de lutte contre la pauvreté avec ce sommet sur les ODD, hein, ou encore le climat, les questions sécuritaires et de gouvernance. Mais disons un peu que ces questions de sécurité et de gouvernance semblent toujours prendre le dessus sur les autres questions, notamment sur les questions de développement. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Merci Abdourahmane et merci de m'avoir encore une fois dans cette émission. Je dirais juste en écoutant tout à l'heure Alexandrine que c'est toujours d'abord la même rengaine, les mêmes sommets des Nations Unies, les mêmes déclarations, les mêmes, disons, engagements qui ne sont jamais suivis d'effet. Et si vous regardez aujourd'hui l'Afrique, le principal c'est le financement de son développement. Et quand on parle de financement, c'est plutôt nos dirigeants attendent l'apport de l'étranger, des institutions financières, des pays partenaires, alors que le cœur du problème, et c'est là où je vais répondre à ma autre question, c'est une question de gouvernance de nos ressources. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique n'est pas dépourvue de ressources énergétiques, de ressources des terres, de l'eau. Mais le problème principal, c'est la gouvernance de ces ressources-là. Et c'est là où les questions de démocratie, c'est là où les questions de gestion intègre de nos ressources reviennent. Et c'est là où aussi il y a un hiatus entre la demande des citoyens, l'attente des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants et le positionnement et l'action de ces dirigeants-là dans l'utilisation de leurs ressources, mais aussi dans leur positionnement au niveau mondial. Parce que quand nos dirigeants vont tendre la main, quand Ruto va rencontrer Zelensky pour négocier des canaux pour l'approvisionnement en blé et autres céréales, Nos citoyens nous disent, mais où sont les terres, les millions de kilomètres carrés, de terres arables au Kenya? Pourquoi nous ne nous centrons pas sur nous-mêmes, sur nos ressources internes, humaines et financières, et énergétiques et minérales, pour financer?
D'accord. Alors, Henri, quand l'ONU choisit cette année comme thème reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, est-elle un peu en train de reconnaître qu'elle a du mal à atteindre ses objectifs qu'elle s'était fixés?
Bon, je pense que d'abord il faut sortir de cette posture victimaire et victimisante qui se renouvelle quasiment à chaque grande rencontre au niveau des Nations Unies. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose véritablement. Le constat, on le connaît, on connaît le diagnostic. Ce qui pose problème, ce sont effectivement les solutions. Et comme vient de l'évoquer madame, il y a un problème effectivement de gouvernance. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Le monde a changé, le monde change. Il y a une Afrique qui proteste, une Afrique qui se bat, et il y a une Afrique qui travaille. Et donc il faut réconcilier cette Afrique pour arriver à des résultats qui valent la peine d'être mis en évidence. Parce que sinon, eh bien, nous irons d'Assemblée Générale en Assemblée Générale avec les mêmes constats, avec les mêmes déclarations d'intention et au final avec une position qui n'aura pas avancé d'un iota.
Alors, Jean-Claude Zomba, à mi-parcours, disons seulement 15% de ces ODD sont en bonne voie, mais ce sera quand même difficile de réaliser ces objectifs de développement si l'Afrique est un peu empêtrée dans des crises institutionnelles et sécuritaires, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et je voudrais d'abord remercier VOA pour pouvoir couvrir au niveau des Nations Unies cette diaspora qui parle à leurs gouvernants de ce qui ne va pas dans leur pays. Parce qu'il est important que la diaspora soit impliquée dans les ODD. Et ça, c'est une des choses que quand on regarde certains éléments qui sont mis en place, on ne voit pas la diaspora inclue de façon assez spécifique. La diaspora a sa place En décembre 2022, le président Biden a dit que le gouvernement américain est prêt à travailler avec la diaspora africaine aux États-Unis. On voit la même chose qui se passe en Europe. Il est important que cette diaspora soit au centre et accompagne au niveau de ces pays occidentaux vers l'Afrique et de vice-versa. Je pense que, comme a dit tous les différents dirigeants, il est important que l'on prenne en considération qu'il faut refaire mettre certains postes au niveau des Africains pour qu'ils puissent plus parler d'eux-mêmes. Sinon, on va se diriger vers une situation où les Africains se rendront compte qu'on ne les écoute pas, on ne les entend pas, donc ça veut dire qu'on ne prend pas en considération leurs besoins, et à ce moment, ils vont se tourner vers d'autres partenaires. Le BRICS est un exemple assez palpant, où là, les Africains, tout le monde, ont une plateforme, ils peuvent s'exprimer et trouver des solutions à leurs problèmes endogènes.
D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore Anyamena nous dit que l'Afrique doit avoir une place de membre permanent au Conseil de sécurité pour lui permettre d'agir face à l'insécurité, aux aléas climatiques et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Charles Bazema Ouagadougou, il dit encore une assemblée générale de plus qui ne va rien changer dans la situation du monde. D'abord que les grandes puissances commencent par respecter leurs engagements vis-à-vis du changement climatique, de la sécurité et autres. Et enfin, Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit que l'Afrique a un rôle stratégique à jouer dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Avec ses ressources abondantes, le continent doit se positionner au premier rang dans l'adoption d'une alternative verte pour contrer les effets de ce fléau. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
Se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Merci. Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum dans nos studios de New York. Henri-Désiré Zosi, analyste politique et producteur associé du JT Diplomatique. Toujours dans les studios de New York, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Et via Skype, toujours à New York, Hawa Ba, directrice pays d'Ossiwa. Alors, Hawa, la question de la réforme de la gouvernance mondiale est encore revenue en force dans les discours des chefs d'État africains. Après le G20 qui accueille l'Union africaine, peut-on s'attendre à ce que les lignes bougent un peu pour ce qui est du Conseil de sécurité?
Espérons-le, je suis peu optimiste parce que c'est vrai que la demande est plus présente maintenant et au vu, des différents tiraillements géostratégiques entre la Chine, la Russie d'une part, mais et le reste et l'Occident, l'Afrique peut avoir sa place à jouer parce que on sait que toutes ces puissances-là ont besoin des voix de l'Afrique et ont besoin du soutien, mais malheureusement aussi de l'allégeance de l'Afrique. C'est là où je pense que je rejoins Henri quand il parlait de changer de paradigme et de remettre la focale sur, par exemple, le sud global. Nous avons vu un peu comment aujourd'hui les BRICS sont depuis l'élection du président Lula, les BRICS sont revenus au devant de la scène.
Justement,
les BRICS ont un grand intérêt.
Justement, Henri, certains vont un peu jusqu'à dire que l'avenir de l'ONU est en jeu. Est-ce votre avis? On va revenir un peu sur la question des BRICS.
Alors, après 78 ans, oui, il est temps effectivement d'engager les réformes nécessaires. Le monde a bougé, le monde a changé. Et il faut bien le rappeler, cette 78e édition, en tout cas Assemblée Générale, est très particulière puisque pour la première fois, eh bien, nous avons 4 des pays membres permanents du Conseil de sécurité qui ne sont pas représentés par leur chef d'État. Est-ce un désintérêt? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une déflagration géopolitique et stratégique consécutive aux derniers événements que nous avons vécus il y a un an et demi, notamment en Ukraine, et il y a aujourd'hui, sur le continent africain, une véritable demande pour davantage de représentativité et de respect, ce qui ne signifie pas pour autant que l'Afrique pourra jouer toute sa partition. Aujourd'hui, l'Afrique a la capacité de se choisir ses propres alliés, ce qui explique d'ailleurs son regain d'intérêt pour des groupements comme le BRICS. Mais attention, ces regroupements ne sont pas non plus exempts de tout reproche, puisque vous avez également en interne des rivalités qui s'expriment de plus en plus. On pense évidemment à la Chine et à l'Inde s'agissant des BRICS, mais aussi par rapport à des pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite qui viennent de rejoindre les BRICS et qui auront, à mon sens, à cœur aussi de poursuivre ce bras de fer auquel ils sont habitués. Pour faire court, je dirais que l'Afrique a la capacité aujourd'hui de jouer sa propre partition, mais en se choisissant les bons alliés et en évitant, et c'est le plus important, d'être une variable d'ajustement lorsque cela arrange tel ou tel bloc dans ses intérêts.
Jean-Claude, cette semaine, en marge de l'Assemblée générale, Washington a annoncé la création d'un partenariat pour la coopération atlantique qui inclut plusieurs pays africains avec une façade atlantique. On a les BRICS qui s'élargissent, ce dont parlait tout à l'heure Awa, et également le G20 qui accueille l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on doit déduire de tout cela?
Ben, on doit déduire que déjà la crise ukrainienne a fait comprendre au monde occidental que les acquis d'avant, les acquis de Bretton Woods, les acquis de l'Union africaine ne sont plus là. C'est-à-dire on a vu au niveau des votes, au niveau de l'ONU, que certains qui se mettaient généralement derrière par exemple la France ou les États-Unis ont décidé de ne pas suivre. Donc, ils sont dans une position de réaction en se rendant compte que les choses changent, ont changé, les lignes bougent, c'est un nouveau paradigme. Donc ils essaient de s'adapter. Je pense que s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne, toutes ces propositions ne seraient pas sur la table aujourd'hui. Il est important que l'Afrique soit là où on prend des décisions pour l'Afrique. L'histoire où on a vu, par exemple en 1898, avec le partage de l'Afrique, aucun pays africain n'était là. Il est important que lorsqu'on doit parler de l'Afrique, les Africains soient là. Je suis très content de ce que le président rwandais, sud-africain, ghanéen et tous ceux qui poussent pour qu'il y ait une meilleure représentativité le fassent de façon forte, parce qu'on n'aura jamais ce que nous déservons, ce que nous méritons. Nous n'aurons que ceux que nous arrivons à négocier et négocier de façon inclusive pour l'Afrique.
D'accord. Et justement, Awa, est-ce une manière subtile de se passer de l'ONU ou en tout cas des blocages au sein du Conseil de sécurité?
Je pense qu'on a besoin d'espaces alternatifs, mais aussi on a besoin d'être au cœur de cette gouvernance mondiale. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'ONU, mais d'une ONU qui fonctionne différemment, où il y a une différente représentativité, et comme l'a dit Jean-Claude, où quand on prend des décisions, par exemple, sur l'Afrique, que l'Afrique soit au cœur de ces décisions, que l'Afrique soit au cœur de ces instances-là. Donc, l'ONU a toujours sa nécessité, mais l'ONU a besoin de changer. Et l'Afrique peut apporter ce souffle nouveau si nous avons des voix fortes, des voix aussi qui écoutent de l'intérieur leurs citoyens. Je vais toujours insister sur ça. Et qui défendent effectivement l'intérêt de l'Afrique, mais qui ne sont pas là pour, en tant que faiseurs de roi ailleurs. Maintenant, ces espaces alternatifs-là, parce que la réforme du multilatéralisme, ça va aussi de pair avec des espaces alternatifs. Et c'est là où je vois les BRICS comme un espace alternatif. Le G77, on en parle pas. Il y avait un sommet à Cuba avec des résolutions très intéressantes. Et donc, s'assurer que dans cette gouvernance mondiale-là et dans la réforme qui est appelée aussi par rapport à la gouvernance mondiale, parce que si on prend l'architecture financière mondiale aujourd'hui, c'est au sein de ces instances-là que ça se décide, malheureusement. Et donc, il faut que l'Afrique soit là et que l'Afrique soit bien représentée.
D'accord. Alors, Henri, on a peut-être 4 minutes avant la fin de l'émission. J'ai envie qu'on parle un peu quand même de la question sécuritaire qui est essentielle pour le continent. Comment est-ce que vous voyez un peu tous les discours, pour votre cas, par exemple, sur le cas de la crise dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, comment est-ce que vous interprétez tout ce qui a été dit jusque-là?
Il était important de rappeler la réalité d'une situation que certains parfois ont tendance à oublier, tout en pointant bien évidemment les responsabilités. Alors vous le savez, à l'est de la RDC, depuis que la recrudescence de l'activisme du M23 a été pointée du doigt, on n'a pas vu d'avancée significative, avec notamment la force est-africaine, mais aussi avec un certain nombre, je dirais, d'initiatives qui n'ont pas toujours été suivies d'effet. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des conditions à la fois d'une paix durable, mais cela devra surtout se faire avec en toile de fond la restructuration d'une armée. Et le gouvernement de la RDC a demandé assez récemment que le processus d'accélération du retrait de la MONUSCO puisse se faire, parce que malheureusement, il faut bien le dire, nous n'avons pas pu toujours compter sur le soutien de la MONUSCO, peut-être en d'autres temps, mais cette fois-ci, les choses sont un peu différentes et nous allons, en tout cas en tant que Congolais, prendre les mesures nécessaires pour essayer de restaurer l'autorité de l'État dans les zones où cela pose problème.
D'ailleurs, le président Tshisekedi l'a rappelé encore mercredi. Il demande un retrait rapide ou accéléré de la MONUSCO. Alors, Jean-Claude, sur les coups d'État, les Nations Unies ont répondu à, disons, aux demandes des Africains. Et les critiques déjà, c'est qu'il y a eu du deux poids, deux mesures. Le Gabon qui est représenté alors que le Niger n'y est pas, par exemple. Comment est-ce que vous interprétez tout cela?
Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'ils prennent en compte, parce que quand on parle de coup d'État militaire, il n'y a pas que de coup d'État militaire. Il y a des coups d'État institutionnels, les changements de constitution. Quand on passe d'un mandat, de deux mandats, trois mandats, mandat toujours renouvelable pendant plusieurs années, à ce moment-là, la communauté internationale ne dit rien. Si on ne va pas là où se trouvent les vrais problèmes, on ne pourra jamais arrêter tous ces coups d'État qui viennent. Je pense qu'aujourd'hui, les Nations Unies, certaines institutions internationales se rendent compte qu'il y a un problème. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on repart encore dans la déclaration de 1966 des droits des peuples disposer d'eux-mêmes. Si le peuple, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté alors qu'il y a des richesses dans ces pays, il y a un problème considérable. Les gens ne vont pas juste sortir dans la rue et demander droit à l'accès à l'éducation, à la santé ou même à une croissance inclusive dont on parle aux ODD, sans que quelque part ces institutions internationales ne s'assurent qu'il y ait également un suivi sur le côté social, le côté politique, économique et même culturel. Aujourd'hui, nous croyons beaucoup à ce que le Sud global pourra faire, non seulement pour l'Afrique, mais tous les pays du Sud. Monsieur Kagame a même parlé de l'importance de l'intelligence artificielle qui peut donner un boost au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il est maintenant important que les organisations internationales comprennent que l'Afrique est debout et que l'Afrique va avancer, car il est temps que cette Afrique brille et soit à tous les concerts des nations.
Alors, avoir 20 secondes, l'Afrique brille, comme l'a dit Jean-Claude. Juste pour conclure l'émission, comment voyez-vous l'Afrique pour les années à venir?
Sur les 1,2 milliard de personnes annoncées qui auront fait en 2030, les 600 millions sont projetés en Afrique. Et ça, c'est inadmissible, parce que l'Afrique est riche, l'Afrique a des ressources. Et moi, je veux que l'Afrique qui boue, cette Afrique des jeunes entreprenantes, qui est innovante, que ce soit cette Afrique-là qui est mise en œuvre d'exergue, cette Afrique-là ait la chance d'être celle que l'on entend et celle qui agit. Et il faut des dirigeants qui soient autour de ça.
Voilà. Washington Forum, c'est terminé. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube. Merci à toute l'équipe de production. À très bientôt.